to 85.7. The S&P 500 up 5.5 points, 0.6% to 9.8. And the Nasdaq in front of the 515 points, 1% less than $15.
Divergence numérique, 12e émission. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes qui nous écoutez, que ce soit en RTN sur le 93.9 dans la région de Montpellier, que ce soit sur internet par les différents moyens que vous avez pour nous écouter, ou que ce soit en fort différé si vous écoutez le CD qui accompagne Linux Magazine France. Gilles Gouget qui vous cause dans le micro rouge et avec Jean-Claude et Albert. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Albert.
Bonsoir Gilles et bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Gilles et bonsoir Jean-Claude.
Alors nous attendons Dimitri Robert qui devait nous accompagner pour ce démarrage de l'émission, mais figurez-vous qu'il est encore en route vers Montpellier depuis la cité phocéenne, et on lui souhaite de ne pas être coincé dans les embouteillages comme chanteraient les Cosmopolites par exemple. Et donc au sommaire de cette émission, nous allons parler des nouvelles du front comme à l'accoutumée, chronique incontournable et indispensable pour parler des problèmes des brevets ou des lois liberticides diverses et variées. Et puis ensuite, on fera encore un retour sur les rencontres mondiales des logiciels libres 2004 qui s'étaient tenues au mois de juillet à Bordeaux. Nous aurons une interview d'Alexis Kaufmann, responsable de Framasoft.net, un site originellement dédié au freeware pour Windows et Windowsien, et qui est aussi naturellement que rapidement devenu une passerelle vers le libre pour tout le monde. Et puis on aura aussi Pascal Terjean, qui est co-webmestre de LinuxFR, un site très très visité lui aussi, qui est spécialisé dans la dépêche d'informations. Il y en a beaucoup.
Beaucoup.
Un site énorme. Et puis, donc, on l'avait rencontré. Il nous parlera de tout ça. Il nous parlera aussi du troll. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils le découvriront, ce que ça veut dire en informatique. Et on aura aussi par téléphone Alain Di Rollo, qui est en ce moment à Paris. Alain Di Rollo, qu'on avait reçu au moins une fois, me semble-t-il, voire deux, pour parler d'Allégétis. Allégétis, un acronyme qui vous veut du bien, puisque ça veut dire alternative logicielle libre pour les écoles gardoises, évitant toute informatisation coûteuse exagérée. C'est un acronyme qui est long, mais qui vaut bien son pesant de cacahuètes. Il nous parlera un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'éducation, puisque c'est la rentrée, et puis il y a pas mal de salons et de forums, que ce soit au mois de novembre ou au mois de janvier 2005, par rapport à ça, et puis son ressenti personnel sur l'impact des logiciels libres dans le monde merveilleux de l'éducation. Au niveau musique, nous serons avec Godon pendant toute cette émission. Godon, un groupe qui est en devenir, qui est avec des paroles plutôt pas mal, et qui a la particularité d'avoir tous ses morceaux sous licence Creative Commons by NC 1.0. D'ailleurs, Godon, qu'on aura sans doute en interview pour l'émission du mois d'octobre, qui sera, elle, consacrée entièrement à la musique. Et puis voilà, tout de suite, les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Et ça fait mal, les nouvelles du front côté brevet, côté lois diverses. Côté brevet, moi j'ai d'abord à vous dire que le monde commence à se préoccuper de la question. Je crois que de plus en plus on voit des articles dans la presse qui parlent des problèmes liés aux brevets, etc. Là c'était le 20 septembre qu'on trouvait cet article signé Jean-Marc Manac dans Le Monde, qui fait remonter un petit peu l'information de façon globale pour dire que les brevets logiciels c'est dangereux, un point de vue que nous on défend depuis assez longtemps, ainsi que tous les gens qui ont un brin de jugeote dans ce monde de brut. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant,
pas assez.
C'est pas suffisant, et c'est d'autant moins suffisant que malheureusement, il y a des associations qui s'étaient tournées vers le Premier ministre et vers le Président de la République pour obtenir des éclaircissements sur la position de la France à Bruxelles lors du dernier Conseil des ministres de l'Union européenne. Et il semble, la réponse a été claire aussi bien de la part du Président de la République, du moins de ses représentants, que du Premier ministre. Et il juge que le représentant de la France a pris une position correcte, c'est-à-dire qu'il estimait que la nouvelle directive, un peu modifiée, garantissait l'existence des logiciels libres. Alors évidemment, c'est pas du tout suffisant. Donc on va voir un peu, il faut toujours solliciter âprement nos élus.
Albert.
Ce qu'on peut ajouter, oui, c'est que on vient de fêter il y a une semaine à peine les 1 an du vote du Parlement européen qui avait justement contrecarré tout ce qui avait été prévu pour les brevets logiciels et qui depuis, bien sûr, a été remis en cause par le Conseil des ministres européens. Mais ça fait un an quand même que tous les députés avaient dit non dans le cadre voulu aujourd'hui par les ministres et ce qui avait été fait avant par les Anglais. Et on sait très bien qui derrière, vu les infos qu'on avait à l'époque, que en fait, ils étaient contre.
Alors, on fait pas de politique dans Divergence numérique, puisqu'on donne la parole à tout le monde, et même à François Vanson de l'UMP, qui, à l'appel, en réponse à l'appel urgent de la FFII, ffii.org et maintenant même .fr, pour vous renseigner sur le problème des brevets. François Vanson appelle l'attention, c'était une question écrite au ministre de la Recherche, appelle l'attention de monsieur le ministre délégué à la Recherche sur l'inquiétude que suscite auprès des professionnels la position adoptée par la France au Conseil de l'Union européenne, le 18 mai dernier, favorable de fait à une brevetabilité illimitée et une application sans entrave des brevets sur les algorithmes et méthodes de gestion mis en œuvre par ordinateur en Europe. Les formules rhétoriques utilisées par le texte proposé introduisent en fait une brevetabilité illimitée dont les conséquences peuvent être préjudiciables pour l'innovation, la concurrence et la croissance de l'économie informationnelle. Plus graves encore peuvent être les conséquences de cette directive pour l'indépendance des États en général et de la France en particulier, alors que doit se développer une administration électronique grâce à l'usage d'Internet et des logiciels libres. En effet, une brevetabilité au contexte d'appréciation et d'application aussi large que ceux proposés freinera les développements logiciels non commerciaux permettant l'indépendance des États par rapport aux éditeurs établis. Compte tenu des éléments exposés, il lui demande au ministre de la Recherche de bien vouloir lui indiquer si la France compte s'opposer à cette proposition. On n'a pas la réponse à cette question posée au ministre de la Recherche, mais en tout cas, on se rend compte que les parlementaires sont de plus en plus sensibilisés, sans doute grâce à l'action que mène la FFII. À ce titre, allez sur le site, vous pourrez trouver toutes les informations pour envoyer une lettre à votre député ou alors une carte postale à votre député européen pour lui donner votre avis là-dessus.
Pas qu'européenne d'ailleurs, on peut l'envoyer aussi à son maire, à son député français, à son sénateur. Il est important de faire découvrir à ces gens qui sont des fois un peu à côté de tout ça, qu'il y a des problèmes qui sont là, qui existent, qu'il faut en prendre conscience. Ce qu'on pourrait rajouter pour finir aussi, c'est par rapport à ce qu'a dit ce député de l'UMP.
François Vanson, oui.
Merci. C'est que... En France, il faut savoir qu'on a les développeurs les plus enviés au monde. Les États-Unis se les arrachent et beaucoup de gens s'arrachent nos développeurs parce qu'on a un esprit qui est un peu particulier, paraît-il, qui nous permet d'avoir les développeurs les plus appréciés sur la planète. Donc il faut le savoir que d'accepter les brevets, c'est faire partir toute cette créativité à l'étranger.
Et si je peux rajouter une chose, je voudrais insister sur ce que tu as dit juste à l'instant, Gilles, c'est-à-dire que c'est pas une question de politique. L'opinion sur les brevets et le point de vue que les gens ont sur les brevets repose sur leur culture personnelle et il n'y a aucun clivage politique dans ce domaine. Je connais parmi mes amis et parmi mes connaissances des gens qui sont aussi bien plutôt de droite que plutôt de gauche et je dois dire que je me heurte au même problème lorsque j'essaye de leur faire entendre la nature de ce problème de brevet logiciel. Et il y a des gens à droite qui ont très bien compris, d'autres à gauche qui ont très bien compris, et on a aussi beaucoup, malheureusement encore beaucoup trop, qui n'ont rien compris à ce problème. Donc il faut vraiment s'y remettre tous les jours et expliquer sans cesse.
Alors juste pour terminer, il y avait eu un appel lancé par Framasoft aussi au chef des services des interventions du Premier ministre. Alors les réponses, que ça soit celle-là ou que ça soit la réponse du conseiller technique du président de la République, on est quand même un peu dans la langue de bois, faut bien l'avouer, hein. Vous avez bien voulu appeler l'attention du Premier ministre sur la proposition de directive européenne, tralala, tralala. Les préoccupations dont vous vous faites l'écho ont retenu toute l'attention de monsieur Jean-Pierre Raffarin. Les réserves de la France sur ce projet de directive ont été levées après que des aménagements importants eurent été apportés au texte initial. La nouvelle rédaction apporte les garanties nécessaires pour que le champ de la brevetabilité du logiciel soit compatible avec une préservation du savoir-faire européen dans le domaine du logiciel libre, etc., etc. On est mort de rire. Et puis encore la réponse du conseiller technique du président de la République française. Par la lettre en date du 5 août 2004, vous avez bien voulu attirer l'attention de monsieur le président de la République sur vos préoccupations concernant le projet de directive européenne, tralala. Très sensible à vos préoccupations, le chef de l'État m'a chargé de vous remercier de votre courrier et de vous répondre. Le reste de la réponse est, comme vous le savez, la France a soutenu le compromis irlandais, mais a assorti son vote d'une déclaration rappelant les objectifs qu'elle entend poursuivre, à savoir un encadrement clair de la brevetabilité des logiciels qui mettent fin aux dérives de l'Office européen des brevets. Ça, c'est quand même pas mal, hein, qu'on cite les dérives de l'Office européen européen des brevets, que nous, on dénonce depuis assez longtemps. Mais bon, c'est bien joli, mais tout ça, ça ne va pas faire avancer beaucoup le schmilblick. En tout cas, espérons que ce soit le contraire. Voilà, Albert, une dernière news.
Oui, on peut parler un peu de l'UCD. L'UCD, si vous en souvenez bien, c'est les problèmes de droit d'auteur.
De copie privée.
Dans quelques jours, un procès va commencer. D'ailleurs, le procès d'un enseignant qui a téléchargé sur le réseau Casa des musiques, et donc il se retrouve devant le tribunal, qui risque une amende de 30 à 300 000 euros si la mémoire est bonne. Alors bon, c'est la SNEP, c'est la société, la SNEP Gilles, peut-être.
Je ne m'en souviens plus, non.
c'est le syndicat national des études des éditeurs phonographiques, je crois.
Voilà. Merci.
Merci Jean-Claude, qui donc l'a mis en procès. Il y a d'un autre côté l'ADAMI, qui est une association qui regroupe
d'auteurs
qui demandent, est-ce qu'une taxe soit instaurée au niveau du net, c'est-à-dire quand vous prenez votre abonnement à Internet, vous payez une taxe, comme vous en payez une par exemple sur vos CD vierge ou sur vos cassettes vidéo vierge, enfin sur quasiment tous les supports vierges que vous pouvez acheter sur le marché. Et même d'ailleurs, même sur le support non vierge, quand vous achetez un iPod par exemple de Macintosh, d'Apple, vous avez une taxe dessus qui est de 15 ou 20 euros je crois. Et voilà quoi, c'est vraiment la fête, à ce niveau-là, tout le monde essaye de se battre contre les pirates. Et ce qui est assez amusant, c'est que d'un côté on a ça, et que les auteurs, par contre, commencent à se dire et commencent à crier. Donc on a parlé de Johnny Hallyday le mois dernier, mais il y en a d'autres, des auteurs compositeurs commencent à se dire, mais qu'en fin de compte, que le net est plus une source de rapports privilégiés avec ses clients, avec les gens qui les écoutent, avec ses fans. Et qu'en fait, peut-être que les choses ne sont pas si toutes blanches ou toutes noires que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Mmh. Et en fait, on voit que même les maisons de disques sont en train de revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qu'elles avaient au début. Et qu'à l'heure actuelle, bon, on se retrouve en face de l'ADAMI ou de la SNEP qui, elle, continue à agresser. Mais les choses sont en train de changer. Peut-être qu'ils sont en train de réaliser qu'ils étaient partis sur la mauvaise voie. Mmh. À suivre.
En tout cas, le vent du changement souffle fort puisque il y a aussi les licences libres pour la musique sous laquelle de plus en plus d'artistes enregistrent leur travail. Et puis, il faut bien comprendre une chose, c'est que extrêmement rares sont les artistes dans la musique qui gagnent de l'argent en vendant des disques. Faut bien comprendre que 99,99% des musiciens sur la planète gagnent leur vie en jouant devant un public. Et le disque, c'est une activité un petit peu annexe. Quand on entend les majors se scandaliser, râler, etc., il faut quand même repenser à ça et se dire, mais de qui se moque-t-on ?
D'ailleurs, à ce propos, je suis allé voir la SACEM justement pour les licences, pour avoir des informations sur les licences du libre et sur la licence donc de la SACEM qui engage l'auteur ad vita aeternam, enfin jusqu'à sa mort sur ses œuvres. Et je leur ai donc parlé des licences libres, que ce soit tous les genres de Creative Commons, etc., tout ce qui existe, art libre et compagnie. Il faut dire que ça les met dans une rogne terrible parce qu'ils voient pour eux un danger.
La fin de la SACEM.
Et une perte, et ça les fout vraiment très très en rogne, donc c'est le fou du jour, c'est là.
Voilà, et bien qui prévoit le changement, hein, les gens de ces institutions. Voilà, de la musique libre, on va en écouter d'ailleurs tout de suite avec le glas du PAF, alors c'est peut-être prémonitoire.
On verra.
Channel on shit to choose from. L'os sourit dans la boîte noire. Plus fort, plus fort. Silence, un tuyau se vide dans les crânes vides de nos chers publivores. Téléphones, cinéphiles. Poussez pas, y'en aura pour tout le monde. Du direct, du live, la fête, la viande, du bonheur. Débranché, connecté sur rien. Ça te remplit de bien. Mac la gonzesse, c'est la boucherie esthétique. Acérie, vieille pipe, Pamela qui décolle. La scène VIP, c'est comme le glas du PAF, le glas du PAF, le glas du PAF. travers des cités, la zone téléguidée, le casse du jour, la prostituée sans visage, Babylone Haute-Garonne. La goutte au front, l'œil fuit en l'œil, le doigt en hiver, c'est pas moi, j'ai rien fait. Je suis président, maire, député, conseiller, PDG au mieux, présentateur télé. Voici venir l'heure du pays heureux qui n'existe pas. Le show capote, la parabole molle, le codeur crame, c'est trop chaud, y'a plus de pierre, la mire est belle. Le dernier film a pour titre Le glas du paf. Le glas du paf. Le glas du paf. Les sans papiers, les sans toit, les sans argent, les sans vie, les sans contaminés, les sans trop cher. Là aussi les sans parents, les sans tête, les sans basket, les sans tout, les sans rien qu'on file. Pourquoi pas les disséquer pour voir ce qu'il y a dedans? Pourquoi pas la story dans toutes les chaumières, le pivot dans tous les apparts, le crime à l'étage. Ça, c'est la dernière rengaine. Le glas du paf. Le glas du paf. Le glas du paf. Rien à foutre, vivement rollerball dans la pop, pop, popcorn music for the nice people. Peuple de Nice, féminicie, site de market, senior manager, le silo de tête, le mignon bête, la machine spray, le papillon bas de l'aile, déclenche les cyclones, et tu restes là immobile, dépense des tonnes de ville, tu bloques, tu développes, tu vas finir en lock, la rouge, la bleue, laquelle tu crois, clin d'œil, du gros œil, part à la dose, c'est urbain, tu décolles, vis ça. Déconnecte et c'est le glas du paf, le glas du paf, le glas du paf, paf.
Le glas du paf, le groupe s'appelle Godon, ils sont pas loin de chez nous, figurez-vous, mais ils sont encore plus près de chez vous si vous tapez godon.org, un site qui milite aussi pour le libre sous toutes ses formes. On ne sait pas encore si les musiciens de Godon enregistrent leur musique sous logiciel libre, mais on les a eu au téléphone il y a quelques jours et puis ils ne connaissaient pas l'existence d'Ardour. Ils se sont empressés d'aller faire un petit tour sur le site ardour.org. Et dans l'émission du mois d'octobre, à noter que nous diffuserons l'interview de Paul Davis, le développeur d'Ardour, qui est un Pro Tools-like, comprendra qui pourra, libre et extrêmement puissant et efficace, qui ne gère pas encore le MIDI, mais le MIDI, on va dire que c'est un petit peu le passé, même si ce n'est pas vraiment vrai. Tout de suite, on va écouter Alexis Kaufmann, rencontré aux Rencontres Mondiales cet été. Alexis Kaufmann, responsable de Framasoft.net, un personnage fort sympathique, même si pendant toutes les RMLL, il a été inséparable de son bob savane, un bob assez large qui couvrait bien le devant de... Enfin, il avait un look d'enfer, quoi. Un peu un météorite, Alexis Kaufmann, dans le monde du libre, puisque c'est pas vraiment un linuxien au départ, quoi.
Non, au départ, c'est un professeur de français, si je ne m'abuse, ou un professeur de maths.
De maths,
Framasoft, en fait, Framasoft, ça signifie français, maths. Parce qu'il a fait ça avec un copain et je sais plus effectivement, lui c'est il est prof de maths donc en Italie et donc dans un lycée français à Rome. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, vous allez vous en rendre compte en écoutant son interview. C'est devenu sur ces rencontres un ami, comme bon, ça arrive dans ces rencontres là. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Alexis, on te salue vraiment tous les trois de tout cœur.
Nous sommes avec Alexis Kaufmann de Framasoft.net. Bonjour.
Bonjour.
Alors, mis à part la star des RMLL, tu es aussi donc un activiste fort apprécié de la communauté du libre. Dis-nous deux mots déjà pour présenter Framasoft pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
Oui, alors j'ai absolument pas l'impression d'être la star, bien au contraire, je dirais que c'est presque un chien dans un jeu de quilles, parce que la particularité de Framasoft, c'est de démarrer à partir du système d'exploitation Windows, c'est de faire découvrir le libre à partir de Windows. Donc je suis entouré de Linuxiens qui me tolèrent, mais disons que c'est cette approche qui se veut un peu pragmatique, profane. Je pense que ça c'est bien qu'on soit aussi si présent ici, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et nous, on est vraiment en amont d'un processus qui serait de de proposer aux utilisateurs de migrer vers, de découvrir du libre et puis de migrer ensuite vers, pourquoi pas, le tout libre que représente Linux.
Alors justement, la majorité des gens découvrent les logiciels libres en étant sous Microsoft. C'est peut-être justement une porte d'entrée que vous êtes les seuls à utiliser.
Les seuls, nous on reste modeste malgré tout. Disons que quand le site a démarré il y a 3 ans, le pari c'était ça, c'était de penser que les logiciels libres allaient être proposés aussi sous Windows, pas par conviction de leurs développeurs et de leurs programmeurs, mais un petit peu par nécessité, quoi. Et c'est effectivement ce qui est arrivé, et on n'est pas très très loin de pouvoir par-dessus son Windows mettre que des applications libres, ce qui change la donne, et c'est des applications qui sont multiplateformes, ce qui fait que comme de l'autre côté Linux devient de plus en plus convivial à l'installation mais aussi à l'utilisation, ben, on se retrouve avec des logiciels qui sont disponibles pour les deux systèmes d'exploitation, et l'utilisateur quand il osera enfin franchir le saut, ce qui arrive de plus en plus souvent, il retrouvera ses billes.
Alors toi-même, tu n'es pas informaticien, hein, tu es enseignant. Comment tu es venu à cette idée-là et comment tu as découvert les logiciels libres?
Moi, j'ai découvert les logiciels libres en théorie, c'est-à-dire en comme ça, un jour sur le web. J'ai parcouru un article d'un universitaire canadien qui s'appelait Jean-Claude Guédon. Un article qui datait de 1998 et qui exposait, qui disait tout le bien qu'il pensait des logiciels libres à l'école. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais par contre, ma réalité à moi, c'est que je suis encore, malgré tout, windowsien, en tout cas de formation et de formatage. Et j'ai essayé, avec justement en créant ce site, de faire rejoindre les windowsiens que par la force des choses ou qu'inconsciemment ou que sans le savoir on représentait le logiciel libre en tant que principe, valeur, théorie, etc., qui sont d'ailleurs très très proches de l'éducation.
Dans les réactions que vous avez par rapport au site, est-ce qu'il y a une majorité d'utilisateurs Windows, ou est-ce que les gens qui utilisent Linux vous contactent souvent ou postent souvent des incitations à changer d'OS?
Non, mais ce qu'il y a, c'est que nos utilisateurs, de temps en temps, les plus téméraires d'entre eux font le saut et passent à Linux. Et à ce moment-là, c'est un peu comme quand on réussissait le Kinder Surprise ou le cadeau Pif Gadget. Ils sont tellement contents qu'ils veulent le crier sur tous les toits et ils reviennent sur le site le dire déjà. Donc ça, c'est, on a beaucoup de témoignages de « j'ai réussi », un peu comme « j'ai arrêté la cigarette » en gros. Voilà. Et puis ensuite, ceux-là, une fois qu'ils ont crié victoire, ils s'en vont vers d'autres sites comme les Linux, et puis ils vont aussi, j'espère, être actifs dans les logs, etc. C'est comme ça que petit à petit on va atteindre la fameuse masse critique.
Donc finalement, en fait, même si Framasoft s'est orienté au départ pour faire découvrir des logiciels libres qui tournent sous Windows à des gens qui n'utilisent que des logiciels propriétaires sous ce même système d'exploitation, en fait c'est une porte ouverte à ce Linuxifié à 100%.
Pas spécialement à se linuxifier, mais en tout cas à se déconditionner et pour casser l'alternative logiciel propriétaire piratage, quoi. C'est aussi ça, parce que la réalité, moi quand j'ai entrepris ce site, ou quand j'ai découvert l'informatique, c'était logiciel propriétaire et puis une espèce d'attitude généralisée à pirater constamment toutes sortes d'applications, Photoshop, la suite Office, etc. Et ça s'est installé, même parmi, je suis enseignant, la situation a un peu évolué, mais je veux dire, il y a quelques années, on trouvait chez tous les enseignants des logiciels pirates. Voilà la réalité, des enseignants qui sont censés quand même représenter une certaine... voilà, donc il n'y a pas, vous n'êtes pas contraint de soit d'avoir du propriétaire, soit de les pirater, non, il existe autre chose, voilà. Et cette autre chose est en plus, il y a de fortes chances pour que ce soit en conformité avec certains de vos idéaux.
Au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup de gens qui font soit des compilations de logiciels, soit des mini-distributions. Spécialement pour l'éducation, c'est un thème qui a, il y a eu le Linux Edu il n'y a pas très longtemps, on en parle de plus en plus. Est-ce que toi, dans ta sphère professionnelle d'enseignant, est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu as des échos de tout ça à ton niveau?
À mon niveau professionnel, ma situation est un peu particulière parce que je travaille, je suis dans un lycée à l'étranger et on a un informaticien, ce qui n'est pas le cas des établissements en métropole où la gestion du réseau, tout ce qui est informatique, est plutôt confié à un enseignant. Donc là, moi, j'ai pas eu beaucoup de... Je suis arrivé il y a 2 ans dans mon nouvel établissement. Bon, les choses se font petit à petit. Le serveur est passé de NT à Linux. C'est très bien. Ensuite, effectivement, on voit fleurir des compilations de logiciels libres un peu partout. C'est tout à fait logique, et parce que les gens qui découvrent ont envie de le faire partager. Nous, sur le site, on a toute une rubrique qui est justement dédiée à toutes ces compilations qui se ressemblent, mais qui ont toutes leurs particularités. Et c'est très bien. Ce qui est aussi un phénomène qui est assez nouveau, c'est dans les logs où on mettait en avant la plupart du temps surtout Linux ou exclusivement Linux. On laisse un petit peu de place comme ça au logiciel libre sous Windows, je pense par souci d'avoir un public un peu plus large et un peu plus grand public.
Oui, puisque la majorité des enseignants aujourd'hui, ceux qui ont un ordinateur, ils sont pas sous Linux.
Ben non. Les enseignants.
Et où ils n'utilisent pas forcément des logiciels libres.
Non plus, les enseignants sont 800 000 voire 1 million, ils reflètent un peu la population générale. Ce qui est certain, c'est que ils ont été habitués à Windows et que c'est assez difficile de leur faire changer de leurs habitudes. Et ce qui est curieux, c'est que moi j'ai toujours pensé que le mouvement allait venir de la base, et il est fort possible que ça vienne d'en haut, c'est-à-dire il est fort possible que ce soit les institutions qui tout d'un coup, alors peut-être pas parce qu'ils partagent les grandes valeurs du libre, mais par souci des matériels, en tout cas qui imposent maintenant c'est fini la suite Office, on va mettre Open Office. Voir c'est fini Windows, on va mettre Linux parce que maintenant c'est efficient, c'est reconnu, ça ne coûte rien sauf la maintenance. Enfin bon, ça c'est tout un autre débat, mais il est possible que ça vienne d'en haut. C'est...
À ce titre, qu'est-ce que tu penses personnellement de la déclaration du Premier ministre en faveur des logiciels libres, justement à Linux Edu, il n'y a pas très longtemps, quelques jours après que son ministère ait voté pour les brevets logiciels à la Commission européenne?
Oui, il y a la question évidemment posée d'une certaine manière. D'abord, on peut quand même se féliciter d'entendre l'expression logiciel libre de la part d'un personnage d'État si haut placé. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, effectivement, on peut également regretter d'abord d'avoir assisté sur le côté économique. Et ensuite, effectivement, il y a cette collusion que vous signaliez qui est malheureuse et qui est un paradoxe. D'un côté, je ne sais pas si c'est vrai, faire semblant ou en tout cas promouvoir l'usage des logiciels libres, et puis de l'autre, effectivement, ne accepter une loi qui va à l'encontre du développement des logiciels libres.
Combien de visiteurs en moyenne visitent framasoft.net?
À peu près 15 000 par jour. C'était voulu au départ, c'est-à-dire que quand il a été créé, c'est parti d'un annuaire de logiciels libres et gratuits. On parlait beaucoup de freeware, on mélangeait allègrement gratuit et libre, quitte à créer de la confusion, mais on essayait d'assumer ça une fois que les gens allaient venir sur le site. Donc tout était fait pour que les gens viennent. Si vous faites un annuaire de freeware, il n'y a rien de plus porteur que les annuaires de freeware sous Windows, quoi. Je veux dire, c'est clair. Donc si on a du monde, c'est parce que ça faisait partie de la stratégie, hein, entre guillemets, et à charge pour nous ensuite, à partir du moment où on a du monde qui vient, qu'on est bien placé sur Google, etc., éventuellement de leur expliquer que gratuit, c'est pas libre, que le libre a à notre faveur, oui, pourquoi, etc.
Justement, au niveau de la consultation, dans vos statistiques, est-ce que finalement il y a des gens qui consultent beaucoup les freeware et qui après viennent consulter les libres?
Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a réussi à se dégager. Le mot gratuit n'existe plus sur le site. Et ça a été tout un cheminement. Donc maintenant, on sera assez fort pour ne plus parler de gratuit, pour plus faire la confusion et pour parler de libre ou de logiciel propriétaire. Alors, il reste quelques propriétaires sous Windows parce que l'on trouve qu'ils n'ont toujours pareil, comme pour un petit peu attirer un public large, un petit peu comme pour les attirer dans une toile, un peu comme produit d'appel, qui sont là parce qu'ils n'ont pas encore entre guillemets d'équivalent libre sous Windows, et puis ils sont relativement bien fléchés, c'est-à-dire qu'on explique que ce ne sont pas des logiciels libres, mais qu'on les tolère pour leur qualité.
Merci Alexis.
Merci à vous.
se décider. Il est parti de nulle part pour en arriver là. Il est trop tard pour se retourner, trop tard. Le tic-tac dans sa tête s'est arrêté, pas trop tôt. Qui a dit qu'il fallait mourir, renaître? Pour lui, chaque minute, une journée. Chaque mort, une nuit. Depuis 8000 ans, 8000 ans. Il s'est assis, il n'a plus bougé. Et la santé, la sève montée. Il s'est assis, il n'a plus bougé. Et la santé, la sève montée. La lame qui s'enfonce à sa base, la lame qui s'enfonce. Il s'est assis, il n'a plus bougé. Il a senti qu'il tombait, qu'il tombait. Il s'est assis, il n'a plus bougé. Il a senti qu'il tombait, qu'il tombait.
Et voilà, Albert, il se sent plus, c'est la folie dans les studios de Divergence. Voilà, le groupe s'appelle Godon, emmené par les frères du même nom, dont la maman était danseuse, il faut le savoir. Donc un groupe qui a toute sa musique sous licence libre, sous licence Creative Commons by NC 1.0. Leur disque est disponible sur leur site, godon.org. Et puis que dire de plus sur ce groupe, bien, on les recevra sans doute au mois d'octobre.
Pour
parler de leur démarche.
J'ai une info toute chaude que j'ai de Dimitri Robert de cet après-midi. C'est que le groupe Godon devrait normalement être à Game Over numéro 2, qui sera donc au mois d'avril-mai de 2005, présent et faire un concert en direct de Game Over.
Voilà, Game Over, c'est le salon des jeux libres.
Tout à fait.
Voilà, tout
sur
à fait.
Plateforme libre.
Sur plateforme libre, voilà, exactement. La précision était importante. On va à présent écouter une interview de Pascal Terjean, rencontré lors des RMLL 2004 à Bordeaux cet été. Pascal Terjean qui est un des responsables de linuxfr.org, on va dire le site francophone le plus visité.
C'est,
sur les logiciels libres.
C'est le site le plus visité dans la francophonie aujourd'hui. C'est celui sur lequel il y a le plus de dépêches et le plus d'informations. Et Pascal Terjean est l'un de ses responsables.
Pascal Terjean, bonjour.
Bonjour.
C'est Rencontre mondiale du logiciel libre. Tu es là évidemment pour représenter linuxfr.org, un site de référence, Albert, je pense, sur le libre en France.
Oui, c'est le premier site francophone des nouvelles quotidiennes du libre.
LinuxFR a été créé il y a 4 ou 5 ans par quelques personnes, surtout Fabien Penseau. À l'époque, il y avait une dizaine de visiteurs environ par jour. Maintenant, c'est devenu un site un peu plus gros. On est une équipe d'une dizaine de personnes pour modérer les dépêches et on a un peu plus de 20 millions de hits sur le site par mois, donc ça fait quand même. Et moi j'ai repris le site avec Benoît Cibot depuis début janvier 2004.
Cette évolution de visiteurs, elle s'est étalée sur combien de temps et puis avec quelle courbe d'accélération?
Je pense que c'est relativement exponentiel et ça fait. Ça fait maintenant quand même 2 ans que ça augmente très rapidement.
Combien de personnes y contribuent?
Du point de vue du code, 2 ou 3 personnes. Du point de vue des dépêches, je pense qu'il y a depuis le début du site 100 ou 200 personnes qui ont proposé des dépêches. Et il doit y avoir 20 ou 30 personnes qui ont déposé plus d'une dizaine de dépêches.
Quelle est la ligne rédactionnelle?
C'est surtout de l'actualité, donc des dépêches assez courte, sur tout ce qui touche à Linux et au libre, c'est assez large. Il arrive de passer des choses sur les logiciels non libres sous Linux ou sur du libre ailleurs, ou parfois même sur des choses qui n'ont rien à voir. On a aussi par exemple une section cinéma, ce qui permet aussi de connaître l'avis des gens qui ont à peu près les mêmes références que nous sur d'autres choses.
Donc c'est pas uniquement un site où on va à 100% parler de Linux, de l'actualité et puis de rien d'autre quoi.
Non, il y a beaucoup de discussions. Les discussions s'éloignent d'ailleurs assez souvent du sujet de la dépêche originale. Il y a une section aussi journal où chacun peut poster ce qu'il veut sans modération. Et beaucoup de gens l'utilisent pour connaître la vie des autres, pour poser des questions, etc. Non techniques assez souvent.
Sans modération, ça veut dire que les messages qui sont postés par les internautes, les visiteurs, sont automatiquement mis en ligne, quel que soit le contenu?
Oui, ils sont automatiquement mis en ligne. On peut après, si en cas de problème, les supprimer, mais ça arrive très rarement.
Les gens s'autogèrent assez bien, quoi.
Globalement, oui, à part quelques cas très précis. Sur les... on a un peu plus de 10 000 comptes actifs. Il y en a peut-être une dizaine avec qui on a eu des problèmes, donc c'est vraiment... Ça se passe globalement très bien.
Alors comment remonte l'information?
N'importe quel lecteur peut proposer une dépêche, et en général sur les sujets qui intéressent beaucoup de monde, on va en avoir une dizaine de proposés, donc il faudra le regrouper, faire quelque chose de bien avec. Sinon il arrive qu'il y ait des dépêches plus courtes sur lesquelles on n'ait pas grand chose à rajouter, donc dans ce cas-là on a une section seconde page pour les choses un peu moins intéressantes.
J'imagine que le succès de LinuxFR tient à la quantité d'articles qui sont postés, d'informations qu'on y trouve. Ça représente des ajouts, combien d'ajouts par jour ou par semaine?
Par jour c'est variable. En fait il est arrivé assez rarement qu'il n'y en ait aucun dans la journée, mais en moyenne, je dirais qu'il y a 4-5 dépêches par jour. Il arrive qu'il y en ait 10 ou 15 dans la journée, mais donc il y a aussi toutes les sections à côté, donc les forums, les journaux, qui font que des gens viennent quand même s'il n'y a pas grand-chose, parce que il y aura des choses intéressantes quand même dans les journaux, des gens qui annonceront une version d'un nouveau logiciel, qui annonceront un événement mineur quelque part, ou des choses comme ça. Et c'est quand même le site reste actif même quand il n'y a pas trop de dépêches.
Albert, peut-être une question ?
Oui, il y a une chose assez particulière sur LinuxFR, c'est la manière dont les gens qui ont des comptes sur le site, en fait, pour pouvoir poster un message, il faut avoir un compte sur LinuxFR, s'autogèrent entre eux. En fait, les messages sont notés par les visiteurs selon leur pertinence ou selon leur non-pertinence. On s'aperçoit des fois que selon le clan dans lequel on se trouve, on est plus ou moins, on va dire, pas banni, mais mal noté par ses compères.
En fait, ce système a été mis en place assez progressivement, quand on a eu quand même des problèmes de gens qui venaient poster. Il y a eu une fois des gens qui sont venus poster quelques centaines de messages en quelques minutes, des choses comme ça. Donc on a décidé qu'un compte qui venait d'être créé ne pouvait pas poster directement. Et après on a rajouté progressivement pour essayer de masquer le bruit parce que le nombre de commentaires augmente. À chaque fois maintenant sur une dépêche, il y a 200-300 commentaires. Il arrive que ça monte jusqu'à 1000. Donc quelqu'un qui arrive ne peut pas lire tout directement. Alors il y a quelques années, on avait un système où une vingtaine ou une trentaine de personnes avaient le droit de mettre un score fixe sur les commentaires. Mais avec le nombre de commentaires qu'il y a actuellement, c'est plus possible. Donc on a décidé que chacun pouvait donner son avis dessus. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour voir le nombre d'avis, on a mis un système de karma en place, que les gens dont les avis étaient plutôt positifs avaient plus le droit de donner leur avis que les autres, etc. Et il y a eu un moment quand même la course à ceux qui voulaient avoir le plus grand karma. Et après, il y a eu aussi des gens qui ont essayé de se regrouper pour en descendre d'autres. Donc là, pour ça, on a mis un certain nombre de places de surveillance, disons. On a moyen d'interdire complètement de participer, enfin de donner son avis. Ils pourront toujours poster des commentaires, donner leur avis, mais ils ne pourront plus noter les avis des autres pour ceux qui abusent. Ça se passe assez bien. On a aussi masqué, justement, le karma n'est plus affiché. Il n'y a que nous qui le connaissons. Et déjà, je pense que ça permet d'éviter la course qui avait lieu avant. Et globalement, là, depuis ce changement, ça a l'air de se passer beaucoup mieux qu'il y a quelques mois.
Comme quoi le contrôle est toujours difficile, il faut trouver la forme qui froisse personne en quelque sorte.
Bah, ça froissera toujours quelqu'un, il y en aura toujours qui seront vexés de ne pas pouvoir, il y en aura toujours aussi qui seront un peu de mauvaise foi, et ça, bon, bah, faut faire avec, mais bon, globalement, ça se passe quand même très bien. Quoi.
Oui, on parle aussi, du moins j'aimerais avoir ton explication, on parle aussi du troll, souvent présent sur LinuxFR, mais pas seulement, il y en a aussi sur d'autres sites. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du troll ?
Pour moi, un troll, c'est une discussion non constructive où chacun a un avis différent et n'essaye pas de donner des arguments pertinents ou d'écouter ceux que pourraient donner les autres, qui continue sans fin, où chacun dit juste qu'il n'est pas d'accord avec l'autre, qui arrive assez fréquemment. Oui, c'est vrai que c'est un sport, on va dire un sport national sur LinuxFR, ce qui explique aussi le nombre important de commentaires, et justement, c'est pour ça que de pouvoir masquer tous les commentaires non intéressants, c'est assez utile pour pouvoir lire de manière assez concise avoir les informations complémentaires à la dépêche sans avoir tout le bruit.
De sorte à conserver aussi un contenu qui ne part pas n'importe où, n'importe comment, ce qui pourrait nuire à la visibilité du site. Quoi.
Oui, mais oui, enfin, disons que le contenu partira toujours, c'est ça. Donc en fait, c'est essayer d'avoir, pour les gens qui n'ont pas envie de lire tout ce bruit, parce qu'il y en a qui en ont envie quand même, d'avoir un moyen simple d'aller à l'essentiel. En fait.
Au niveau de vos visiteurs, est-ce que vous savez à peu près qui vient vous voir ? Est-ce que c'est une grosse majorité, j'imagine, de spécialistes, entre guillemets ? Est-ce que vous avez des visites d'autres pays francophones ?
Oui, ben en fait, en regardant les statistiques web, on voit qu'il y a énormément de pays, francophones ou non. Bon, alors, il y a aussi, je sais qu'il y a des expatriés qui nous lisent comme ça, mais des pays francophones, il y a énormément. Par exemple, ben, en Belgique, on a énormément de ça. Au Canada, on en a pas mal aussi de visiteurs. Après, pour le type de visiteurs qu'on a, c'est vraiment très varié. Je sais, on avait découvert avec surprise des lecteurs habituels chez certains, dans des journaux, il y a des journalistes qui nous lisent, dans des administrations, des gens qui ne sont pas encore, qui n'utilisent pas forcément le libre actuellement, mais qui sont intéressés, viennent régulièrement voir, prendre des nouvelles. Et c'est vrai que c'est vraiment très varié. Pour
l'équipe de personnes qui maintiennent le site, est-ce que c'est difficile de année après année, mois après mois, de maintenir le truc comme ça bénévolement, ou est-ce que vous avez un turnover nécessaire pour pas que les bonnes volontés s'émoussent?
Pour la modération, déjà, ça tourne pas mal. Enfin, disons que les modérateurs restent un an ou deux en général, et puis après, ils n'ont plus le temps. Donc, à partir du moment où on est plus actif pendant quelques mois, on fait du remplacement, sinon on se retrouve avec une période où on se retrouve à une ou deux dépêches par jour avec une quarantaine en attente à traiter, donc ça c'est pas possible. Pour ce qui est de l'administration, en fait, il y a 6 mois maintenant, justement Fabien en avait assez. Ça faisait quand même 4 ou 5 ans qu'il s'occupait du site, donc il avait envie de changer un peu, et puis bon, il s'était fâché avec quelques personnes parce qu'en général, les gens qui abusent un peu sur le site n'aiment pas qu'on leur dise, et il s'était fait quelques ennemis au passage, et puis il l'appréciait pas, à chaque fois de se faire régulièrement insulter sur le site, ce qui n'est pas très agréable. Donc là, il a décidé de le laisser un peu, et donc il nous a passé la main en tant que webmaster. Il participe encore occasionnellement, là il a fait quelques changements sur le système régulièrement, mais plus comme nous on le faisait avant, et que j'appréciais beaucoup justement, ça permettait de participer au fonctionnement du site en étant tranquillement derrière et sans que ça se voit. Mais bon, globalement, oui, ça tourne beaucoup moins du point de vue de la gestion du site que du point de vue de la modération quotidienne, etc. Où là, oui, c'est... Les gens, ça dépend. Il y en a actuellement des modérateurs qui sont là depuis 2 ans ou 3 ans. D'autres, là, il y en a... Je pense que la moitié est là depuis moins de 6 mois.
Est-ce que des fois, les visiteurs se proposent, des gens complètement extérieurs?
Le recrutement se fait, en général, par une annonce où on demande, on recherche des gens, et les gens postulent, et après, on voit, alors, en fonction de leur participation au site, de ce qu'ils ont posté récemment, si on les connaît par d'autres projets ou d'autres choses, quel est notre avis là-dessus? Est-ce que, justement, quand ils postent sur le site, leur orthographe est correcte, des choses comme ça, et après on décide entre nous, mais en général, oui, c'est des gens qui se proposent.
Merci, je rappelle que LinuxFR, c'est pas tout à fait l'adresse du site, c'est linuxfr.org, à ne pas confondre avec linux.fr par exemple, et on te souhaite bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci à Pascal Terjean. Tout de suite, on écoute Godon dans une reprise francisée de I Shot the Sheriff. On vous en parle tout de suite après.
jour la liberté est venue à moi. Et je suis parti de la ville. Soudain je vois Sheriff John Brown. Il voulait me descendre. Alors que j'ai tiré sur lui.
Avouez que c'est assez étonnant. C'est Godon qui s'était approprié une traduction somme toute sympathique de I Shot the Sheriff. Il faudra leur dire que The Deputy, c'est le remplaçant, le suppléant du shérif, et ce n'est pas le député. On est ravis d'accueillir Dimitri avec nous, qui est enfin bonsoir. Arrivé à Montpellier.
Oui, enfin, après un léger retard.
Après un léger retard, alors Dimitri Robert, rédacteur en chef de Linux Pratique, désormais un habitué de Divergence Numérique.
Habitué, c'est que la deuxième fois.
Voilà, c'est que la deuxième fois. Donc tu es arrivé un peu à la bourre en raison des problèmes considérables que nous connaissons à Montpellier, en raison des travaux, du futur la deuxième ligne de tramway, etc. On est ravis de t'avoir avec nous. Là, on va avoir au téléphone Alain Dirolo qu'on avait déjà eu pour parler de l'éducation, puisque c'est le porteur du projet Allégétis, alternative logicielle libre pour les écoles gardoises, évitant toute informatisation coûteuse exagérée. Et puis il va aussi nous parler. Oui, Albert.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant Allégétis n'est plus seulement gardoise, mais nationale, notamment.
Exactement.
Grâce à Apple qui distribue ses CD autant sous Linux ou Windows que sous macOS 10.
Voilà, il en parle avec nous. Je crois qu'il est en ligne.
C'est bon.
Alain Dirolo, bonjour.
Oui, bonjour Gilles, bonjour toute l'équipe de Divergence et bonjour tous ceux qui sont autour de la table.
Ben voilà, on est assez nombreux. Alors tu nous téléphones depuis Paris. On t'avait reçu dans Divergence Numérique pour parler d'Allégétis, dont nous venons à l'instant d'expliquer l'acronyme, fort long mais somme toute assez humoristique. Là on n'est pas là pour rigoler puisque c'est la rentrée, donc on est là pour que tu nous fasses un petit point de ce qui se passe dans le milieu de l'éducation par rapport au libre, sachant que lors des rencontres mondiales cet été, on a attesté du fait que ça bouge pas mal. Alors à ce moment de la rentrée, qu'est-ce qui se passe d'important ?
Eh bien, il se passe pas mal de choses relativement importantes. Alors, on peut noter différentes orientations. Et actuellement, il y a un plan d'équipement pour les étudiants avec un prêt particulier de 1 euro par jour, je pense que c'est ça, qui permet donc aux étudiants de s'équiper en matériel informatique et notamment en ordinateur portable. Et dans l'offre actuelle, on peut déceler deux PC fonctionnant sous GNU Linux. Alors c'est une Mandrake 10.0 qui est installée dessus. Et particularité, un des deux PC fait quand même partie de l'offre la moins chère de tout ce lot. Bien que ce soit quand même quelque chose qui soit intéressant pour les étudiants, on peut tout de même noter quand même, entre parenthèses, qu'il y a quand même certaines difficultés pour les étudiants, notamment au niveau de la précarité, qui serait peut-être intéressant de voir régler, mais c'est un autre problème.
En ce moment, tu es à Paris ?
Oui, je suis à Paris, alors j'y suis cette année les jeudis et vendredis, et je regrette un petit peu, notamment, vous en doutez, pour les last jeudis de Montpellier auxquels je pourrais difficilement assister cette année, mis à part pendant les petites périodes de vacances où j'y serai.
Très bien. Que se passe-t-il, elle est bonne, au niveau d'Allégétis ?
Alors, au niveau de la justice, eh bien, on est en plein travail sur différents projets, une mise à jour de la version qu'on connaît actuellement sur deux CD. On va passer aussi sur un CD auto-installable sous MS Windows. Et puis, il y a un projet qui est en cours avec des gens qui sont relativement compétents pour faire un CD live orienté maternelle, c'est-à-dire avec très très peu de choses dessus, mais vraiment disponible pour la maternelle, permettant de fonctionner donc sous des PC petite configuration. Et puis il y a un projet mais beaucoup plus gros, un petit peu innovant, je ne peux pas trop en dire encore pour le moment, d'un DVD qui serait complet avec beaucoup de choses dessus. Donc le travail est en train de se faire, les périodes de test ne sont pas encore là, mais ça arrive bientôt.
D'accord, au niveau des salons et de l'éducation, quelle est l'actualité ?
Alors au niveau des salons, il y a actuellement quelque chose d'intéressant qui s'appelle le salon Educatech, qui se tient le 17, 18 et 19 novembre à Paris. Alors cette année, une grande particularité, c'est que le salon, les organisateurs du salon ont contacté M. Archambault Jean-Pierre, qui travaille à la mission veille technologique du CRN-CNDP, pour qu'il y ait un espace logiciel libre. Et on voit que de plus en plus d'organisateurs qui font des salons entre l'éducation se rapprochent du logiciel libre. Donc cette année, il y aura un joli stand, premier degré, et puis second degré et supérieur. Donc on trouvera les gens qui sont habituellement dans ces salons, et d'autres nouveautés. Il y aura Yves Potin, Jean Perratou, Michel Dreschler et d'autres.
Alors ces jours-ci, ces semaines-ci sur Montpellier, il y a des formations qui sont organisées par le CRDP et l'UFM sur l'image et le numérique. Je sais pas trop s'il est question de logiciels libres, mais qu'en est-il de la formation des professionnels, des enseignants? Est-ce que dans ce cadre-là, il y a une volonté peut-être du ministère pour que les logiciels libres soient enseignés au corps enseignant?
Alors, je pense qu'il y a quand même une mouvance actuellement qui oriente les choix vers le logiciel libre. Alors, ce qui est marrant, je fais une petite digression, c'est que j'avais fait un petit article en répondant à une personne lorsque j'avais vu sur une liste de diffusion le contenu d'une formation, ça s'appelait à l'époque Imago 2003, voilà. Et où on proposait aux enseignants de se former sur des logiciels propriétaires relativement chers. Alors pour les curieux, vous retrouverez cet article en tapant Imago 2003 sur sur Framasoft, vous le trouverez facilement. Il était vraiment orienté sur le fait qu'il est préférable d'utiliser le logiciel libre.
Voilà, c'est justement la suite d'Imago 2003 à laquelle je faisais allusion qui a lieu en ce moment. On peut qu'espérer que ça bouge un petit peu plus.
Je serais curieux donc d'aller voir le contenu de la formation, voir un petit peu s'il y a eu des retombées par rapport à la missive gentille que j'avais envoyée il y a un an.
Voilà, dans le communiqué de presse qu'on a reçu, le détail n'est pas donné, donc il faudra les contacter pour en savoir plus.
Encore deux petites choses, si j'ai encore 30 secondes.
Absolument.
Voilà, alors il y a actuellement, c'est relativement nouveau, un espace premier degré qui s'est ouvert sur le site logiciel libre du CNDP de l'Académie de Versailles. Alors je peux donner l'URL, si
tout
vous voulez. Alors c'est http://logiciel. -libre-cndp.ac-versailles.fr. Donc l'espace premier degré est relativement nouveau et on va y trouver pas mal de choses, notamment beaucoup de fiches pédagogiques qui ont été réalisées par des enseignants dans le cadre de l'utilisation des logiciels libres en partenariat avec le projet de logiciel libre pour la maternelle et le premier degré réalisé par les CRDP de Versailles et Paris, en partenariat avec Apple. Donc, en fait, entre parenthèses, c'est le projet Allégétis repris à un niveau beaucoup plus haut par des gens divers et variés. Donc, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent le nez là-dedans.
Alors, au niveau de on va dire du grand public, toi, tu côtoies autant des enseignants que des élèves et en nombre. Est-ce que tu as le sentiment, peut-être depuis les deux dernières années, qu'il y a moins de surprises et d'interrogations dans le regard des gens quand tu leur parles des logiciels libres, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'informations à donner?
L'information à donner, il y en aura toujours, parce que les nouveaux utilisateurs sont peut-être justement mal orientés au départ. Mais je suis inscrit sur plusieurs listes de diffusion et le logiciel libre commence à rentrer dans la discussion. On trouve pas mal de demandes d'articles et d'aides concernant le logiciel libre, chose qu'on ne trouvait pas il y a 2 ans, effectivement. Mmh. À ce sujet, il y a une organisation, alors je n'ai plus l'intitulé d'organisation, c'est une association, pardon, qui regroupe tous les instituteurs animateurs informatique, donc du premier degré de France, qui sont, pour ceux qui sont affiliés à cette association, il y a un colloque le 14 et 15 janvier 2005, colloque auquel je suis convié d'animer un atelier autour d'un thème qui me fait plaisir, c'est le développement du logiciel libre. Donc on voit vraiment que l'intérêt s'y porte de plus en plus, et ce qui est relativement intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont au contact donc des enseignants du premier degré, des élèves. Et le logiciel libre fait effectivement maintenant partie de leur centre d'intérêt.
Donc une fois encore, le logiciel libre, il ne suffit pas de l'utiliser, il faut aussi et surtout y contribuer.
Oui, il faut y contribuer. Il y a pas mal de choses à faire et à réaliser, notamment, je parle toujours pour le premier degré, des activités pédagogiques autour du logiciel libre. Je prends un petit exemple très très simple. Il y a un logiciel qui s'appelle Celestia, qui est un simulateur spatial en 3D, qui est très très bien fait. On trouve un site avec des scripts, donc des scripts sont les petits programmes qui vous font voyager à travers le logiciel entre les planètes. Il y a la possibilité de traduire tous ces scripts en français, et donc on peut utiliser, par exemple, quand on s'y met un petit peu dedans, des scripts et pour avoir donc un affichage en français à l'écran, et c'est un très très bon support pédagogique à une activité TIS au cycle 3, par exemple. Mmh. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. L'ouverture et les idées sont les bienvenues dans ce cadre-là.
Eh bien, Alain Di Rollo, on te remercie. On se verra sans doute très prochainement, peut-être dans les studios de Divergence.
Ben, j'espère aussi. Je vous souhaite à tous une bonne et agréable soirée. Au revoir.
Au revoir. Merci Alain de nous souhaiter une bonne soirée que nous passerons sans aucun doute. Voilà, cette divergence numérique 12e du nom touche à sa fin, mais eh bien à présent, on va passer à l'agenda. Un agenda qui est plutôt bien rempli, Dimitri.
Oui, effectivement. D'ailleurs, ça commence dès demain avec une conférence de Richard Stallman sur les brevets logiciels à la mairie du 13e à Paris. Donc, vous trouvez des renseignements sur ffii.org.
Faut préciser quand même pour le passage de Richard Stallman, qu'on aime beaucoup sur Divergence numérique, qu'après être passé en Allemagne et au Luxembourg, il sera donc en France. Et puis, la conférence ayant lieu dans une grande salle de la mairie du 13e, pour cause de plan Vigipirate, les horaires sont stricts en gras et il est préférable en italique de se présenter avec une invitation que vous pouvez télécharger sur ffii.fr ou ffii.org.
Ensuite, on enchaîne ce même week-end, donc du 1er au 3 octobre sur Paris, Equiteco. Donc, c'est une manifestation autour du commerce équitable et solidaire. En cela, les logiciels libres se reconnaissent un peu là-dedans. Il y aura notamment des débats et une install party organisée par Parinux. Pour tout renseignement, parinux.org. Le 16 octobre, à la Cité des Sciences de la Villette, à l'occasion de la Fête de la Science, Parinux, toujours, organise une install party.
Voilà, install party, c'est vous y connaissez rien, vous amenez votre ordinateur, on vous installe Linux, c'est la fête.
Et même, vous n'êtes pas obligé de venir avec un ordinateur, vous venez pour vous renseigner, pour voir comment ça marche. Il y aura toujours quelqu'un pour vous renseigner, pour vous faire une démonstration. Ensuite, le week-end du 22 et 23 octobre, ce sont les Journées du Libre à Lyon. C'est organisé par l'ALDIL, donc qui est l'association locale, ALDIL.org pour les renseignements. Et ce sera notamment l'occasion de voir Tristan Nitto en tutu. Tristan Nitto, président de Mozilla Europe.
Mozilla, c'est le navigateur bien connu qu'on trouve sur toutes les stations, que ce soit de Mac, Windows ou Linux ou d'autres systèmes d'ailleurs.
Voilà, un très bon produit.
Ensuite, en ce moment, c'est la période des fêtes des associations. Il y a eu notamment celle d'Aix il y a 2 semaines. Le week-end du 22 et 23 octobre, ce sera celui de Paris. Donc c'est l'occasion aussi de retrouver entre toutes les associations de tout domaine confondu, les associations du libre, et Parinux y sera, et sûrement d'autres associations de la région parisienne. Aussi.
Voilà, c'est la fête aux assos d'ailleurs, pour fêter ça, ils nous ont coupé tous les emplois aidés, donc c'est vraiment la super fête.
Ensuite, on arrive au 6 novembre, ça se passe sur Montpellier, et là je passe la parole à Albert.
Alors le 6 novembre, l'ECM Kawenga, lieu bien connu des Montpellierains, il y aura une conférence sur Mozilla, il y aura une conférence sur les ERP, il y aura une conférence
sur
les ERP. Ah, qu'est-ce que c'est que les ERP ? Ça, c'est une bonne question. Les ERP, ce sont des logiciels qui permettent aux sociétés en fait de gérer tout ce qui se passe dans une société, c'est-à-dire du bon de commande jusqu'au stock, jusqu'à la gestion, tout ça. C'est ça les ERP.
Les inventaires, etc.
Tout ce qui est gestion en fait d'une entreprise. Ça, c'est donc une chose. Donc Mozilla, les ERP. On y parlera aussi un peu de FreeBSD. FreeBSD qui est un système libre dont nous reparlerons sur Divergence Numérique à partir du mois de novembre. Je tiens bien à le rappeler. À partir du mois de novembre, on parlera de FreeBSD en décembre, de NetBSD et en janvier de OpenBSD. Et après ces conférences, nous en aurons encore d'autres. Nous aurons Godon. Ceux que vous avez entendus pendant toute cette émission qui seront là pour nous parler de leur musique et aussi des licences du libre. Et avec un peu de chance, Thierry Stoer viendra nous parler des formats ouverts.
Cependant, je précise qu'il n'est pas encore au courant.
Exactement, mais c'est une surprise que nous le préparons. Et nous tenons quand même à saluer, avant que cette émission se termine, Frédéric Reynal, et j'oubliais aussi, en passant à Reynal, à Eric Fiol, qui est un des amis de Frédéric Reynal, qui sera là aussi pour nous parler de sécurité sur la conférence du 6 novembre. Je finis avec Frédéric Reynal, qui devait normalement nous faire sa chronique ce mois-ci, mais Frédéric Reynal, imaginez-vous, est en Afrique, aux rencontres africaines du logiciel libre. Et il viendra nous en parler dans l'émission spéciale musique, malgré tout, le mois prochain, pour nous raconter un peu ce que c'était que ces rencontres africaines du logiciel libre, première rencontre africaine.
Voilà, et puis on termine, je crois, par les 20 et 21 novembre.
Alors, le week-end du 20 et 21 novembre, je ne sais plus exactement quel jour exactement c'est, la toute nouvelle, toute jeune association du Vaucluse, donc Avec Nous, présidée par Laurent Jacot, que nous aurons l'occasion de rencontrer à Montpellier le 6 novembre.
Voilà, pour les ERP.
Donc, cette association organise une journée découverte, je crois que c'est une seule journée. Donc, à Bédouin, c'est au pied du Mont Ventoux, c'est dans un cadre magnifique. Donc, venez-y, si vous êtes dans le coin, si vous êtes un peu plus loin, venez-y, ça vaut le coup.
Voilà, et puis il y aura aussi Game Over l'année prochaine, ce sera toujours à Limoges.
Oui, alors quelques mots sur Game Over, ça sera donc bien à Limoges, c'est confirmé depuis cette semaine, ça sera donc sensiblement mois d'avril, mois de mai, ça c'est pas encore décidé, il y a plein d'idées qui fourmillent, ça sera bien mieux que l'année dernière, c'était déjà très bien l'année dernière, ça sera encore mieux. Alors, le concert de Godon, effectivement, c'est une des idées. Ce n'est pas encore confirmé, mais on vous tiendra au courant.
Je me suis peut-être un peu trop avancé, alors.
Effectivement, Godon, étant un groupe originaire de la Corrèze, qui est le département limitrophe de la Haute-Vienne, où se trouve Limoges, la proximité aidera sûrement.
Et les porcelaines aussi.
Voilà. Et puis, pour finir tout à fait, Linux Edu 2005, ce sera du 19 au 21 mai.
Oui, tout à fait. Alors, on voit loin dans cet agenda, mais c'est toujours bien de noter lorsque des manifestations sont prévues longtemps à l'avance. C'est le cas de Linux Edu qui se passera, comme les deux dernières éditions, à Archamps, en Haute-Savoie. C'est organisé par le CRI de Haute-Savoie, le CRI 74. Et ça s'adressera au monde de l'éducation, au monde des collectivités. Le programme n'est pas encore défini, mais on vous tiendra au courant également.
Ce qu'on peut dire, c'est que la première Linux Edu ne tenait que sur un jour, la seconde sur deux jours. En 2005, elle sera sur trois jours. Qu'est-ce qu'on nous réserve 2004 et le CRI 74
en 2006. 2006,
4 jours. Pardon, 4 jours peut-être, on verra.
Réponse au prochain épisode de Divergence Numérique qui se termine. On va remercier Rodolphe Guérard qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Et puis on se remercie, on s'auto-congratule Jean-Claude Stiegler, Albert Bruck, Dimitri Robert et moi-même Gilles Gouget pour cette divergence numérique.
Et on remercie aussi tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, que ce soit sur les antennes, sur Internet ou sur le magazine Linux Magazine France.
Voilà, et puis on salue nos amis de Léa aussi qui sont partenaires permanents et un peu dormants aussi, mais qui ont toute notre amitié.
Tout à fait.
Et on se retrouve le mois prochain, même heure, même punition.
Et l'asile qui viendra Bien sûr, bientôt.
On parlera bientôt de l'asile.
On vous l'assure.
Salut à tous.
Bonne soirée. Customer spending. The market. Business customer spending. The market. Business customer spending. Dollars. 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 The market. Business customer spending. The market. Business customer spending. The market. Business customer spending. The market. Business customer spending.
La pensée est le véhicule le plus rapide qui soit au monde. Les avions de chasse sont des escargots à côté de ce bolide plus que supersonique qu'est la pensée. Nous pouvons devenir des émetteurs puissants de pensées positives. Nous sommes toutes et tous des radios libres absolument incontrôlables par l'État. Nous pouvons émettre dans le monde entier et même au-delà.